da 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 da
Histoire de Palestine. Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Deuxième épisode. De 1923 à 1948, 25 ans de mandat britannique.
Lors de notre première émission, nous avons expliqué d'où vient le sionisme. L'idée pour les Juifs de partir en Palestine. Nous nous étions arrêtés au début des années 20, au moment de la déclaration Balfour, là où la Société des Nations accorde à la Grande-Bretagne le statut de mandataire sur la Palestine. Le sionisme étant avant tout un mouvement nationaliste, qui réunit des tendances allant des socialistes aux groupes d'extrême droite, il porte dans ses bagages la notion d'exclusion. En l'occurrence ici, ce sera les Palestiniens qui en feront les frais. Signalons que, sitôt fondée, chaque colonie est entourée d'une enceinte délimitant le territoire, interdisant l'accès aux anciens possédants des lieux.
Des éléments d'extrême droite au sein du mouvement sioniste ?
Oui. Attardons-nous sur la personne de Jabotinsky, fondateur du courant révisionniste, c'est ainsi qu'il s'était lui-même baptisé. Comme le rappelle Pierre Stamboul dans son dernier livre, « Contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien », durant la révolution russe, Jabotinsky soutient le dirigeant contre-révolutionnaire ukrainien Petliura. Les troupes de celui-ci ont pourtant commis des massacres systématiques contre les Juifs. On évalue à 60 000 morts le bilan de ces massacres.
En effet, l'historien Gérard Noiriel a récemment avancé des chiffres allant de 60 000 à 120 000 victimes.
Quand Mussolini prend le pouvoir en Italie, Jabotinsky trouve un allié. Les premiers contacts entre les révisionnistes et le régime fasciste datent de 1932. Entre 1934 et 1938, en pleine période fasciste, des centaines de jeunes juifs suivent des cours à l'école maritime de Chitiva Vecchia. Entre 1934 et 1938, en pleine période fasciste, des centaines de jeunes juifs suivent des cours à l'école maritime de Civita Vecchia. C'est dans cette ville que les révisionnistes installent leur radio. Mussolini dira en 1934 au fondateur du Congrès juif mondial « Pour que le sionisme gagne, vous avez besoin d'un État juif, d'un drapeau juif et d'une langue juive. La personne qui comprend cela, c'est votre fasciste, Jabotinsky. » Cela n'empêchera pas Mussolini de promulguer et d'appliquer des lois anti-juives quelques années plus tard. Aujourd'hui, les dirigeants israéliens se réclament de Jabotinsky et de ses « valeurs », pourtant explicitement si proches de celles du fascisme. Toujours pour citer Pierre Stamboul, en août 1933, l'agence juive signe avec les autorités nazies les accords de Havara, transfert en hébreu.
Il faut peut-être préciser le rôle de cette agence. L'agence juive, créée en 1929, constitue le pouvoir exécutif de l'organisation sioniste. Elle a pour but d'aider les Juifs à s'installer en Israël. Elle est une sorte de gouvernement de la population juive palestinienne et préfigure le futur gouvernement de 48. Chaim Weizmann fut le principal dirigeant et le premier président d'Israël.
Donc, cet accord permet aux Juifs allemands fortunés d'émigrer en Palestine mandataire en conservant une partie de leur patrimoine. 50 000 personnes environ émigreront dans le cadre de cet accord. Mais l'inconvénient dans tout cela, c'est que, de fait, le boycott lancé par de nombreux Juifs contre l'Allemagne perd son efficacité. En brisant le boycott militant de la société civile, on brisait toute perspective de pression sur les gouvernements pour un embargo d'État. L'Allemagne a eu accès au marché du pétrole et de l'acier sans limite, ce qui a facilité son réarmement. Les sionistes montraient qu'ils privilégiaient totalement la construction de leur futur État par rapport à la lutte contre le nazisme.
Alors concernant le boycott, il s'agit de soutenir les Juifs allemands. Ce sont les organisations d'anciens combattants juifs aux États-Unis qui appellent au boycott des produits allemands, suivi spontanément par un mouvement en Europe orientale. Aux yeux des nazis, le président Roosevelt ne peut qu'être soumis à l'influence des Juifs. Les Allemands sont très inquiets car les effets du boycott se font sentir très vite.
En mai 1942, au Biltmore Hotel de New York, une conférence réunit 67 délégués du mouvement sioniste ainsi que 600 membres de la communauté juive états-unienne. Voici comment on peut résumer la situation. On aurait pu croire qu'elle allait concentrer tous ses efforts pour combattre le nazisme. Eh bien non, la résolution finale condamne la décision britannique de 1939 de limiter l'immigration juive en Palestine et elle appelle à l'établissement d'un État juif sur l'ensemble de la Palestine. Et Pierre Stamboul de conclure, « Nous laisserons au lecteur le soin de décider si les faits décrits ci-dessus font ou non de leurs auteurs des collabos. Ce qui est sûr, c'est que même dans les pires moments, quand l'extermination s'efforçait d'anéantir le judaïsme dans l'Europe occupée, la préoccupation principale des dirigeants sionistes n'était pas la lutte anti-nazie, mais la construction de leur État par tous les moyens. » Rappelons que dès 1917, la Grande-Bretagne s'était engagée auprès du mouvement sioniste de son soutien à la création d'un foyer national juif.
C'est très important. C'est la première reconnaissance officielle par une grande puissance de l'existence d'un peuple juif et le début de l'affrontement entre juifs et arabes pour la possession de la Palestine. Dès 1919, le premier congrès des organisations islamo-chrétiennes rejette unanimement le sionisme et fait un rapport à la conférence de la paix à Paris.
Soulignons que depuis la fin du XIXe siècle, des colonies juives commencent à s'implanter et les Palestiniens sentent bien qu'ils vont avoir à faire face à une menace grandissante. L'écrivain russe Ahad Ham, chef de file du sionisme spirituel qui s'oppose à Herzl, écrira. Nous avons l'habitude de penser que tous les Arabes sont des sauvages du désert et qu'ils ne voient ou qu'ils ne réalisent pas ce qui se passe autour d'eux. Mais c'est une grande erreur. Les Arabes voient et réalisent ce que nous faisons et recherchons en Palestine. Si jamais nous nous développons de sorte à empiéter sur l'espace vital de la population autochtone, elle ne nous cédera pas facilement sa place.
Le sionisme spirituel est porté par ce penseur. Il considère que le vrai danger est la perte d'identité avec l'assimilation, L'assimilé est un esclave qui s'ignore. Cependant, il ne croit pas possible de ramener l'ensemble des Juifs en Palestine. La religion n'est pour lui qu'un aspect de l'identité juive, nécessaire à sa survie. Mais l'identité juive se trouve dans sa mission prophétique et dans la notion de moralité dans l'histoire, introduite par la science du judaïsme. Plus que les Juifs, c'est le judaïsme qu'il faut préserver.
Effectivement, la résistance s'organise. Des journaux sont créés pour informer de la situation et les attaques sont lancées contre les colonies juives. Mais les Palestiniens vont mener aussi un autre front pour se libérer. Ils s'allient avec les autres pays arabes et les Britanniques. Ces derniers leur promettent l'indépendance s'ils se battent à leur côté contre les Turcs. L'Empire britannique joue ainsi sur les deux tableaux. Les Palestiniens ainsi que tous les Arabes perçoivent que la promesse ne sera pas tenue. Dès l'installation du mandat britannique, le mouvement sioniste va créer des compagnies de transport, maritimes et autobus, compagnies des eaux, banques, etc., ainsi qu'une véritable armée tolérée par l'occupant mandataire, la Haganah, précurseur de Tsahal, l'armée actuelle. Au niveau purement administratif, l'Empire britannique accorde aux sionistes la création d'une administration parallèle en matière de politique générale, immigration, travaux publics, santé, éducation, colonisation. La communauté palestinienne s'inquiète de plus en plus de cette emprise dans tous les domaines.
En effet, les institutions sionistes tendent à prendre la forme d'un État dans l'État. Dans le rapport adressé à la conférence de la paix de Paris, les délégués de la Palestine font bien la différence entre, d'une part, les Juifs arabisés qu'ils considèrent comme leurs compatriotes et, d'autre part, les sionistes venus en Palestine pour acheter des terres, les cultiver. Ils sont arrogants, écrivent-ils, incapables de se mélanger aux autres, manifestent un mépris religieux pour les musulmans et les chrétiens, les expulsent de leur quartier et revendiquent ce pays.
En 1922, Churchill, alors ministre des colonies, publie un livre blanc dans lequel il s'efforce de rassurer les Palestiniens en donnant à la déclaration Balfour une interprétation restrictive en indiquant qu'il n'est pas question de transformer l'ensemble de la Palestine en foyer national juif. Il s'exprime en ces termes. Le gouvernement anglais n'a à aucun moment envisagé la disparition ou la subordination de la population arabe, de sa langue et de sa culture en Palestine. L'immigration juive sera proportionnée à la capacité économique d'absorption du pays. Et à la question « qu'est-ce qui est entendu par développement du foyer national juif en Palestine ?» il peut être répondu que ce n'est pas l'imposition d'une nationalité juive aux habitants de la Palestine dans son entier, mais le développement de la communauté juive existante avec l'aide des Juifs des autres parties du monde, afin qu'elle devienne un centre auquel le peuple juif puisse prendre de l'intérêt et donc il puisse s'enorgueillir dans le domaine de la race et de la religion. Fin de citation. Ces inquiétudes vont conduire à des émeutes contre les Juifs. D'abord en 1920 et ensuite le 1er mai 1921 à Jaffa, où la manifestation dégénère entre communistes juifs palestiniens et sionistes socialistes. Lors de cette manifestation à Jaffa, les Arabes s'en mêlent et s'en prennent à tous les Juifs. Les troubles dureront 3 jours. Et feront dans toute la Palestine 80 morts juifs et 62 arabes. L'agitation conduit le gouvernement britannique à vouloir temporiser et convoque à Londres une délégation arabe. La situation s'apaise pendant plusieurs années, ce qui s'explique par un ralentissement de l'immigration. Mais en 1929, la tension va de nouveau se tendre. Cette fois-ci, pour des raisons religieuses liées au statut des lieux saints. Situation naît d'une querelle entre fidèles des deux camps pour leurs droits respectifs sur le mur des Lamentations.
Oui, l'imbrication des lieux saints musulmans et juifs force l'administration britannique à trouver des accords respectant à la fois leur propriété et leur utilisation. En particulier, le fait d'amener des objets pour la prière au mur des Lamentations est considéré par les musulmans comme un premier pas vers la construction d'une synagogue. C'est le début du conflit que l'administration britannique, sur place, a du mal à gérer, sans directive ferme de Londres. D'autres éléments viennent aggraver l'inquiétude des musulmans, dont la création de l'agence juive, en même temps là réunissant sionistes et non-sionistes, et dont deux de ses missions, nous en avions parlé, sont d'encourager l'immigration juive et de favoriser l'utilisation de la terre en tant que propriété nationale du peuple juif. Une organisation de jeunesse radicale sioniste, le Bétard, transforme la cérémonie religieuse du 15 août, anniversaire de la destruction du temple, en une manifestation nationaliste. La tension monte, relayée par la presse arabe et juive. Les Britanniques sont dépassés. Et le 23 août, jour des prières musulmanes, les Arabes arrivent, nombreux et armés, pour défendre le haram, c'est-à-dire le lieu où se trouve la mosquée, et les violences commencent. Avec les rumeurs, elles s'étendront à Hébron, Naplouse, Haïfa, Safed, où étudiants et paysans arabes se mobilisent. Le nombre de morts de chaque côté sera à peu près le même, 135 et 136.
Le 20 novembre 1935, lors d'une bataille contre l'armée anglaise, Izz al-Din al-Qassam, à la tête de ses partisans, trouve la mort. L'action politico-militaire de ce prédicateur musulman d'origine syrienne fait de lui l'un des pères fondateurs du nationalisme palestinien. Quelques mois plus tard, le 15 avril 1936, à la suite d'un accrochage provoquant la mort de trois juifs, les Britanniques refusent la demande d'organiser des obsèques à Tel Aviv. Les juifs passent outre. 30 000 juifs vont s'affronter aux forces de l'ordre. C'est la première fois. Des Arabes sont assassinés et la ville s'insurge d'un coup. À Naplouse, une commission nationale appelle à la réunion des partis arabes et à la grève générale, tant que l'arrêt de l'immigration juive et les transferts de fonciers ne sera obtenu. Le bilan au 21 avril est de 20 morts, dont 16 juifs et 160 blessés. Voici ce que nous en dit Elias Sambar, historien à l'Institut des études palestiniennes, dans son livre « Les Palestiniens dans le siècle ». Le lendemain du 21 avril, la quasi-totalité des villes et villages de Palestine constitue leur comité de grève. Alors, secteur après secteur, la Palestine instaure le boycott de l'État. Commencée par la grève des impôts, elle englobe ensuite transports en commun, ports, enseignements, barreaux, chambres de commerce, municipalités, médecins, magistrats des tribunaux bédouins, prisons, institutions religieuses musulmanes et chrétiennes, jusqu'aux 1200 fonctionnaires arabes du gouvernement. À partir du mois de mai, la grève s'accompagne d'incidents armés. La riposte anglaise ne se fait pas attendre et va culminer le 18 juin à Jaffa. La vieille ville est vidée, puis rasée par une unité du génie acheminé d'Égypte. Justification invoquée, l'urbanisation et la santé publique. Pendant 6 mois, les Palestiniens avaient vécu avec leur pouvoir, leurs contradictions et leur forme sociale spécifique une période unique, sorte de préfiguration d'une patrie débarrassée de la colonisation. Le mouvement sioniste le perçoit pleinement. C'est à partir de 1936 que la Haganah, branche militaire du mouvement, commence à s'organiser en véritable armée et que les quartiers demeurés mixtes disparaissent.
Pendant cette grève, le Haut Comité arabe donnera l'ordre de désobéissance civile. L'administration britannique, dépassée, cherche une solution et des médiateurs. Les Arabes veulent limiter l'immigration et les transferts fonciers accompagnés d'expulsions d'Arabes de leurs terres. Les sionistes refusent toute limitation à l'immigration. Un médiateur irakien, Nuri Saïd, ministre des Affaires étrangères, est venu pour convaincre les Palestiniens de l'arrêt de la grève. Mais pour lui, la vraie nature du conflit repose sur la volonté des Juifs de devenir les possesseurs de la Palestine. Un compromis est trouvé et les Anglais annoncent la venue d'une commission royale d'enquête, la commission Peel, pour étudier les doléances arabes. Et le 7 juillet 1937, le rapport Peel définit un niveau maximum d'immigration, propose un partage de la Palestine en 3. Les lieux saints sous mandat, 33% pour un État juif, incluant Haïfa, la Galilée et la plaine côtière. L'État arabe héritera de la Cisjordanie, du Negev et de Gaza. La Commission royale prévoit aussi le transfert de population. Celui des 1250 juifs se trouvant dans l'État arabe et celui des 225 000 arabes se trouvant dans l'État juif. Les Arabes de Palestine ne peuvent que refuser. Bien que divisés, le mouvement sioniste accueille favorablement le plan, tout en se déclarant insatisfait de la portion de territoire qui lui est allouée. Néanmoins, une idée séduit notamment David Ben-Gourion, c'est le transfert des Arabes.
Devant le refus des deux parties et la montée de la tension sur le terrain, de la grève à l'insurrection armée, Londres mobilise jusqu'à 50 000 soldats pour écraser la grande révolte de 1936-1939, avec l'aide de 20 000 policiers juifs et de 15 000 membres de la Haganah. S'y ajoutent plusieurs milliers de militants de l'Irgun, organisation armée clandestine de l'extrême droite sioniste de Zev Vladimir Jabotinsky. Du côté de la résistance palestinienne, en 1938, la majorité de la Palestine est sous le contrôle des maquis. Voici ce que nous en dit Elias Sambar. Des unités réduites accrochent les troupes avant de se retirer vers des zones où la population va prêter main forte aux fugitifs. Le mouvement gagne une telle ampleur qu'il prend parfois le contrôle des villes. L'état-major anglais envisage même d'évacuer l'intérieur du pays pour le reconquérir. en octobre 1938, des milliers de soldats britanniques réoccupent 758 villages. Mais la répression va être terrible. En mai 1938, les autorités britanniques créent 14 camps de détention par lesquels vont transiter près de 50 000 Palestiniens. En 5 mois, 5 000 maisons seront détruites par dynamitage en guise de châtiment collectif.
L'État d'Israël pratiquera la destruction des maisons lorsqu'une personne est accusée, à tort ou à raison, de terrorisme. On rase l'habitation de la famille en guise de représailles. Cette pratique est condamnable au regard de l'article 33 de la Convention de Genève relatif à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Durant ces 3 années de révolte, près de 4000 Palestiniens seront pendus ou abattus. Elias Sambar écrit : l'autorité est rétablie, mais l'alerte a été rude. Les lois d'exception, les couvre-feux, les déportations, les destructions d'habitations, etc., tout cela n'empêche pas les tentatives d'ouverture envers les Palestiniens. Les Anglais annoncent l'ouverture à Londres d'une conférence regroupant Arabes et Juifs pour discuter de l'avenir de la Palestine. Mais la conférence de Londres, convoquée en février 1939, aboutit à un échec. Les Anglais, dans le contexte de la marche à la guerre, publient alors le livre blanc du secrétaire d'État aux colonies Macdonald, qui promet aux Palestiniens de créer en 10 ans les conditions permettant à un État palestinien de s'établir, de réglementer les cessions de terres et de limiter l'immigration sioniste. Voici de nouveau ce qu'en écrit Elias Sambar.
Les Britanniques ont-ils vraiment choisi entre les deux camps ? Ou espèrent-ils seulement un sursis ? De toute façon, leur revirement a trop tardé. La guerre mondiale impose l'entrée dans le jeu d'un nouveau et redoutable émule, les États-Unis. Les Palestiniens se retrouvent piégés par le temps. On leur promet l'indépendance sans l'instaurer. Les sionistes entrevoient tout de suite le poids déterminant qu'une nouvelle alliance aurait sur leur ancien protecteur.
Ben-Gourion, futur premier ministre de l'État israélien, entrevoit la suprématie des États-Unis après la guerre. Le mouvement sioniste accorde désormais un rôle de premier plan à la communauté juive états-unienne. Les sionistes affrontent de plus en plus ouvertement les autorités. L'immigration illégale se développe d'autant plus que l'ensemble des portes des pays alliés se sont fermées devant les réfugiés juifs fuyant le nazisme. Quant aux États-Unis, ils n'entreront publiquement en action qu'à la fin de la guerre. Leur solidarité à l'égard des victimes du nazisme se double de calculs qui ne sont pas forcément humanitaires. La politique d'hégémonie mondiale qui se prépare, la guerre froide naissante qui les oppose à l'URSS, sont des facteurs décisifs dans leur appui à un protégé implanté dans une région stratégique et riche en pétrole. Le génocide envers les Juifs va accélérer l'afflux d'émigrés en Palestine. D'autant plus que les puissances occidentales ferment leurs portes aux nouveaux venus, puisque les Juifs disposent à présent d'un foyer national au Proche-Orient. De leur côté, les Anglais sont un peu réticents tant qu'ils possèdent encore leur mandat sur la Palestine. La plupart des Juifs ne veulent plus retourner dans les pays où ils ont subi la barbarie nazie. Ceux qui acceptent ou qui sont en transit vont être victimes de nouveaux pogroms, notamment en Pologne, dont le premier à Cracovie, et en septembre 1936, dans la ville de Kielce, suite à une fausse rumeur d'enlèvement d'un enfant. Une partie de la police et de la population se déchaîne. Le bilan fera 42 morts, dont femmes et enfants, ainsi que de nombreux blessés. Par la suite, des trains de rescapés seront attaqués et feront encore des victimes. Le renouveau de l'antisémitisme en Europe de l'Est achève de convaincre les survivants qu'ils n'y ont plus leur place. Bien qu'illégale, l'immigration vers la Palestine ne cesse de croître. En août 1947, l'ONU préconise le partage de la Palestine en un État juif sur 56% et demi du territoire pour 600 000 juifs, dont 137 000 sont nés en Palestine, et 43% pour un État palestinien d'1 400 000 habitants, et une enclave internationale pour Jérusalem. Le plan de partage est voté par l'Assemblée générale de l'ONU le 26 novembre 1947 par 33 voix pour, 13 contre, 10 abstentions. 6 mois plus tard, le 14 mai 1948, à 6 heures, le mandat britannique est aboli. À 6h01, l'État d'Israël est proclamé. À 6h11, les États-Unis reconnaissent le nouvel État.
Commencé avant le vote du partage, les affrontements couvrent l'ensemble du territoire palestinien. Le 1er avril 1948, l'ONU vote une trêve, acceptée par les Palestiniens. Mais le 4 avril, la Haganah déclenche la première guerre de Palestine. Elle oppose 1618 combattants réguliers palestiniens, qui seront rejoints par 2830 volontaires arabes, aux 121 110 hommes de la Haganah. La résistance palestinienne va de défaite en défaite. Arrêtons-nous sur le village de Deir Yassine. Ses habitants refusent de partir. Dans la nuit du 8 avril 1948, les groupes Irgun et Stern massacrent 250 femmes, hommes et enfants.
Le groupe Stern, dont Isaac Shamir faisait partie, a été fondé en 1940 contre le mandataire et fait des attentats contre les Britanniques. Deir Yassine n'avait aucune importance stratégique et son maire venait de conclure un accord de non-agression avec la colonie juive voisine. Ce massacre, qui ne laissera aucun survivant, était destiné à montrer aux Palestiniens qu'ils n'avaient le choix qu'entre le départ ou le massacre. Deir Yassine est une sorte d'oradour.
Les deux tiers des Palestiniens vont être contraints à un exil qui dure encore, le plus long de l'histoire du XXe siècle. Un peuple s'invente un pays, pendant qu'un autre voit, jusqu'à son nom, disparaître des cartes.
Avant de terminer, nous voudrions rajouter que tout récemment, sur le site de l'Union juive française pour la paix, nous avons pu lire ceci. Ce massacre a été rejoint par un « fait d'armes », entre guillemets, que les anciens du 33e bataillon de la brigade Alexandroni ont réussi à cacher pendant plus de 70 ans, la tuerie de plus de 200 Palestiniens du port d'Al-Tantoura. Le charnier se trouve sous le parking de ce qui est devenu pour les Israéliens la jolie plage de Tantoura. L'année 1948 restera pour les Palestiniens celle de la Nakba, en français la catastrophe, le désastre.
لأجل أطفال بلا منازل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل
سقط العدل سقط العدل سقط العدل على المداخل
حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب وحين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب الطفل في المغارة من كل طريق بجياد الرهبة وكوجه الله الغامر لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية الغضب الساطع بجياد الرهبة الغضب الساطع بجياد الرهبة وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا سنعيد بهاء القدس